Your conference is being recorded.
Voilà. Bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord la bienvenue au nom de Lazarfa Gestion dans cette conférence call avec comme thème déficit, dette publique et banque centrale. Quelle issue possible? J'espère avant tout que tout va bien pour vous, pour votre famille et pour vos proches. Je vous rappelle aussi que tant que tout n'est pas rentré dans l'ordre, nous continuerons à communiquer sous forme de conf call ou de visio, aussi bien d'ailleurs sur les classes d'actifs, sur des produits, sur la macro ou les marchés, ou encore sur des thématiques. Et c'est justement aujourd'hui que nous avons décidé de communiquer sur cette thématique qui est très importante d'après nous et où beaucoup de gens se posent des questions, et les équipes de Mathieu Brouès ont travaillé là-dessus pour justement essayer de répondre aux questions du style jusqu'où peut-on aller dans les déficits, dans le montant des déficits, quelles sont les différences entre un déficit d'une banque centrale, un déficit d'une dette de banque centrale, une dette d'État. Et donc, on va pouvoir répondre à toutes ces questions. Ça va être un sujet assez long à traiter. Donc, Mathieu va essayer de tenir en 30 à 40 minutes. On a essayé de l'illustrer avec beaucoup de graphiques parce que c'est assez ardu. Mais je pense que c'est important pour bien comprendre où est-ce qu'on va. Voilà, donc je laisse la parole à Mathieu Brouès. Et puis donc, bien sûr, vos questions, vous pouvez les poser via SpeakUp. Et surtout, posez-les. Le numéro de salle, c'est 10392. Vous pouvez les poser jusqu'à la fin de l'exposé de Mathieu. Voilà. Donc, merci Mathieu.
Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Donc je préviens d'emblée pour cette présentation qu'on va essayer d'éclairer tous ces sujets, mais on n'aura pas de réponse définitive puisque c'est absolument impossible de pouvoir répondre de façon catégorique à certaines questions. Mais voilà, on va vous apporter au maximum les réflexions qu'on a pu mener et qui éclairent quand même une partie du débat. Donc j'attaque par le slide page 2, c'est juste pour rappeler que la crise du Covid a complètement arrêté l'économie mondiale avec une force, une brutalité qu'on n'a absolument jamais vue. Donc là, vous avez la croissance sur un an du PIB au niveau de l'OCDE. On est à pratiquement moins 25%. On avait frôlé les moins 5 sur la pire crise des 50 années précédentes. Donc on est sur quelque chose de 5 fois pire que la pire crise qu'on a connue jusque là, sachant que cette crise est très particulière bientôt, bien sûr, puisqu'elle est quelque part l'arrêt de l'économie est volontaire, c'est pas quelque chose qui est subi suite à des licenciements ou des faillites. Donc face à ce choc extrêmement violent, on a eu des réponses exceptionnelles de la part des États. Donc là, on vous fait figurer les chiffres du FMI qui datent un peu, ils ont un mois. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt plus, et demain, ça sera encore plus. On sait qu'on a des annonces quasi toutes les semaines dans un pays important sur des nouvelles mesures. On attend en particulier un dernier plan américain entre 1000 et 3000 milliards. Donc c'est des sommes honnêtement qu'on n'envisageait pas avant cette crise. Et donc là, sur le graphique, on vous a comparé où on en était à mi-juin par rapport à l'ensemble des mesures 2008, 2009, 2010. Et vous voyez qu'on était déjà très au-dessus. Et donc, on va finir bien, bien, bien au-dessus quand on aura eu toutes les mesures qui seront implémentées. Donc, c'est vraiment des mesures exceptionnelles. Et là, on le précise, c'est hors garantie et soutien de liquidité. C'est vraiment du transfert de richesse. C'est pas de la garantie. Pour accompagner ces mesures exceptionnelles qui creusent forcément violemment les déficits et qui alourdissent les dettes, on a des banques centrales qui ont annoncé la mise en place de programmes de quantitative easing très importants. Le tableau vous déjà redonne des ordres de grandeur sur les soldes budgétaires qu'on attend sur 2020 et 2021. On est sur des chiffres absolument jamais vus. On va être au-dessus de 10% en 2020 pour la zone euro. On va être au-dessus de 20% aux États-Unis et l'année prochaine, on restera a priori au-dessus des 10% aux États-Unis et au-dessus de 5% dans la zone euro, sachant que, je l'ai déjà dit, hein, toutes les mesures n'ont pas encore été annoncées et donc tous les chiffres présents de déficit sont plutôt des sous-estimations par rapport à ce qu'on aura in fine. Sur les dettes, on a un impact qui est très violent, c'est mécanique. Hein. Sur les États-Unis, on va passer de 108 à 146 en pourcent du PIB. Donc c'est une détérioration qui en général met 15 ans ou 20 ans à se produire. Là, ça sera produit en 2 ans. C'est un peu moins violent dans la zone euro, mais on va quand même passer de 84 à 103. Et donc c'est des augmentations quand même assez colossales de dettes. Face à ça, on a des programmes de quantitative easing, donc des programmes d'achat massif d'actifs par les banques centrales qui ont été annoncés, avec des montants autour de un peu supérieurs à 10% du PIB en Europe, zone euro ou Royaume-Uni. Par contre, au Japon et aux États-Unis, on est sur des programmes qui sont annoncés comme non limités. Et donc, on voit que voilà, par rapport à ces augmentations de déficit, on a des banques centrales qui ont mis en face des programmes d'achat à peu près équivalents s'ils sont limités, bien sûr, largement suffisants pour pouvoir absorber les déficits et les émissions que ça implique derrière. Donc une première question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que finalement les banques centrales peuvent vraiment acheter sans limite ? Est-ce que c'est si simple que ça ? Quelque part la réponse c'est oui, c'est-à-dire que on n'a pas de limite aux capacités d'achat d'une banque centrale, pas de limite technique en tout cas. On a, pour rappel, hein, la banque centrale c'est la banque des banques commerciales. Donc de ce point de vue-là, elle est en situation de monopole. Les banques commerciales n'ont pas d'autre choix que d'avoir leur compte déposé auprès de la banque centrale. Et quelque part, la banque centrale impose son passif aux banques, ce qui n'est pas le cas hein, pour d'habitude. Les ménages qui décident combien ils ont de liquidités sur leur compte auprès de leur banque commerciale. C'est pas la banque commerciale qui va décider du montant de liquidité que les clients détiennent sur leur compte. Pour la banque centrale, c'est elle qui décide, c'est-à-dire que c'est elle, via ses programmes, qui va décider en fait du montant de liquidité qui s'accumule. Et les banques commerciales n'ont pas de capacité. Individuellement, elles peuvent essayer de limiter un peu leur liquidité à elles, mais elles ne le feront que le transférer à une autre. Et donc, elle a vraiment un contrôle total sur de ce point de vue-là, au moins de façon agrégée. Pour la banque centrale, donc à partir de là, acheter un actif, soit directement à une banque qui détiendrait l'actif, soit un client de cette banque, c'est très simple, hein, c'est juste un jeu d'écriture comptable, c'est je crédite le compte de la banque commerciale du montant des achats que je veux faire, et en échange je reçois les actifs, et donc il n'y a pas de limite, hein, c'est juste faire monter le montant du compte de la banque commerciale, il n'y a aucune autre implication pour elle, et donc il n'y a absolument pas de limitation à ces achats. Une des raisons, c'est ce qu'on précise sur la dernière ligne, c'est qu'il n'y a pas de ratio, autant les banques commerciales, elles, subissent des ratios où elles ne peuvent pas faire grossir leur bilan sans limite, puisqu'il y a des ratios qu'elles doivent respecter. C'est pas le cas pour la banque centrale. Elle a une obligation d'objectifs de contrôle d'inflation et de pilotage de la croissance le plus souvent. Donc, ce qu'elle fait doit rester cohérent avec ça, bien sûr. Mais au-delà de cette cohérence générale, il n'y a pas de ratio spécifique qu'une banque centrale doit respecter. Et donc, il n'y a absolument pas de limite hein, pour elle. Acheter un titre, je le rappelle, c'est juste créditer le compte de la banque commerciale. C'est un pur jeu d'écriture comptable. C'est vrai que depuis un moment, on a l'impression qu'on a trouvé une sorte de nouveau paradigme un peu parfait, c'est-à-dire que on a une banque centrale qui achète des dettes, qui fait baisser les taux d'intérêt. Certes, les États s'endettent de plus en plus, mais ce qu'on voit sur la page 6, c'est qu'on l'a montré hein, sur la France. On a un ratio de dette sur PIB en bleu clair qui n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans. Pour autant, la charge d'intérêt rapporté au PIB, après avoir monté jusqu'au milieu des années 90, ne fait que baisser. Tout simplement parce que certes, le montant global de dette augmente, mais la baisse des taux d'intérêt est plus rapide, et ce qui fait que le montant d'intérêt à payer diminue continuellement, rapporté au PIB. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît pouvoir être illimité et ne pas avoir de fin, être une solution un peu magique. Donc ça, c'est ce qu'on résume un peu dans la page 7, c'est que voilà, la solution un peu magique, c'est les États peuvent dépenser sans se poser de questions par rapport aux déficits ou aux dettes qui sont générées. Les banques centrales, via leur programme de quantitative easing, peuvent financer les États, peuvent en plus faire baisser les taux d'intérêt à un coût qui est proche de zéro, évitant que la charge des intérêts augmente. Et puis par ailleurs, ce qui est un peu nouveau dans cette crise, comme ça a été généralisé un peu partout à travers le monde, en fait, il n'y a pas du tout de stigmatisation d'un pays. Si c'était le cas, on aurait une devise qui serait attaquée immédiatement. Mais là, comme c'est généralisé, y compris par les pays vus comme les plus modèles, il n'y a pas du tout de fragilité sur les devises, et on peut avoir le sentiment que ce système tient parfaitement et pourrait même se prolonger à l'infini, voire s'amplifier un peu sans limite. Alors, ce qu'on a voulu montrer sur le slide de la page suivante, page 8, c'est qu'en fait, y a un schéma qu'on a parfois à l'esprit qui est assez trompeur, c'est le schéma l'État emprunte, la banque centrale lui prête, alors pas directement parce que c'est interdit la plupart du temps, mais elle achète sur le marché ce que l'État a pu émettre avant, donc ça, dans le fond, hein, ça revient vraiment à une banque centrale qui prête directement à un État, et on peut se dire, tout ça, ça se passe en vase clos, et donc il n'y a pas de problème, en fait. On peut laisser grossir d'un côté la dette de l'État, les achats de la banque centrale sans fin, et il n'y a pas d'autres implications que ça. Et donc ce qu'on a voulu résumer page 8, c'est qu'en fait non, tous les acteurs économiques sont impactés par ces politiques-là. Parce que, bien évidemment, si l'État a besoin d'emprunter, c'est qu'il a besoin d'argent pour le transférer aux agents privés. Et donc, c'est pas quelque chose qui reste isolé avec la Banque centrale. Donc là, pour imaginer de façon très simple, on a pris le cas d'un envoi de chèque aux ménages, ce qui s'est passé aux États-Unis, financé par l'État qui emprunte, et une banque centrale qui rachète le papier sur le marché derrière. Donc mécaniquement, la position comptable de l'État, c'est que en fait, il y a la création d'un passif, c'est-à-dire qu'il émet des obligations pour 100. Alors, temporairement, il a les 100 à l'actif, mais comme il envoie ses 100 par chèque au ménage, et ben l'actif disparaît, donc il reste plus qu'un passif, donc une diminution de richesse de l'État. Si on va en diagonale en bas à droite, on s'aperçoit mécaniquement que les ménages qui ont reçu ce chèque, tout d'un coup, eux, sont plus riches. Hein. Il n'y a pas de passif qui est apparu et il y a un actif qui est apparu pour un montant de 100 équivalent au chèque qu'ils ont reçu. Et quand on regarde comment ça s'ajuste au niveau des banques commerciales et de la banque centrale, ce qui se passe en fait, c'est que la banque centrale, elle, à son actif, achète les obligations d'État pour le financer. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire de façon totalement isolée. On n'est pas en vase clos. Au moment où elle décide d'acheter ses obligations, forcément, elle les achète à soit des banques, soit des clients qui sont déposés auprès d'une banque. Et donc, elle va créditer mécaniquement les comptes de réserve des banques commerciales. Donc, elle se crée un passif. La banque centrale se crée un passif par rapport aux banques commerciales. Et ces banques commerciales elles-mêmes, en bas à gauche, à leur actif, ont donc ces nouvelles réserves qu'elles détiennent à la banque centrale. Mais avec un passif qui est le fait que il y a les dépôts des ménages qui sont apparus et donc les deux s'équilibrent. Et donc on voit que tous les acteurs en fait sont impliqués dans cette opération extrêmement simple, avec des créations d'actifs et de passifs pour les banques commerciales ou banques centrales, et pour l'État et les ménages, c'est la création d'un passif ou d'un actif selon le cas. Et donc au final, on a sur une opération comme ça, on a un flux de richesse qui est assez évident. L'État a envoyé un chèque à des agents privés, donc on a un transfert de richesse État vers agent privé. Et on a un flux de liquidité qui part de la banque centrale, qui passe par les banques commerciales, mais qui finit sur le compte des agents privés. Et c'est important de garder ça à l'esprit. On a une génération de liquidités qui est inévitable à partir du moment où l'État s'endette de plus en plus pour assurer son déficit. Une première question, c'est d'accord, mais est-ce que ça pose un problème, même si ça, il n'y a pas que la Banque centrale et il n'y a pas que l'État qui sont concernés, est-ce que pour autant ça crée des problèmes, en particulier, est-ce qu'on n'a pas eu exactement la même chose en 2008-2009 Alors c'est vrai qu'on a eu la même chose, mais avec une ampleur qui était quand même totalement différente. Donc là, on vous remet le déficit budgétaire en pourcentage du PIB des États-Unis. Donc là, c'est les projections 2020-2021 à la fin du graphique. C'est avant le probable futur plan de relance qu'on va encore avoir. Donc les chiffres seront plus négatifs que ce qu'on a sur ce graphique très probablement à terme. Et vous voyez que par rapport à 2008-2009, on est quand même déjà bien au-delà. Donc avec le nouveau plan, on sera encore plus au-delà. Et en fait, il n'y a qu'au moment des conflits mondiaux qu'on a eu des dégradations de ce type-là, sur la Première ou sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est quand même sur quelque chose au niveau de l'ampleur sur le déficit budgétaire qui est déjà bien au-delà de 2008-2009. Sur la page suivante, on vous a mis l'évolution de la masse monétaire. C'est M2 hein, qui est le plus retenu aux États-Unis, de toute façon M3 n'est plus publié. Donc c'est vraiment ce qui est très liquide, les comptes courants et puis les comptes à terme sur des durées très courtes, plus les billets, donc vraiment tout ce qu'on peut mobiliser très rapidement pour un achat. C'est vraiment les liquidités au sens où on le comprend un peu intuitivement. Et rapporté au PIB, on voit qu'on a pendant longtemps été sur quelque chose d'assez stable, tournant autour de 60% du PIB, des fois un peu au-dessus, un peu en dessous. On voit que depuis 2000, on est sur une pente haussière, en particulier depuis 2010. Donc là, on voit bien depuis 2010 l'inflexion des quantitative easing. Et puis on voit qu'on a un bond depuis la période très très récente qui est absolument incomparable avec ce qu'on avait vu historiquement, hein, qui est même plus important que ce qu'on avait vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, les liquidités qu'on évoquait en disant voilà, c'est pas que en vase clos, les liquidités finissent sur les comptes des agents privés, et ben ça se voit directement sur M2. Et là, on voit que ce qui fait aujourd'hui est d'une violence absolument jamais vue sur les 120 dernières années. Donc c'est vrai que ce niveau de liquidité interroge. On peut se demander, mais est-ce que toutes ces liquidités forcées en un sens dans un premier temps qui arrivent sur les comptes des agents privés, est-ce que c'est des liquidités qui peuvent y rester? Est-ce que finalement les agents privés peuvent se dire oui, j'ai beaucoup plus de liquidités que par le passé, mais finalement la situation est tellement inquiétante que je suis plutôt content. Et là, on a le sentiment que c'est difficile de penser ça parce que on n'est pas sur des niveaux de stress qui sont totalement historiques aujourd'hui. Hein. Si on regarde, on reprend toujours les États-Unis. Il y a beaucoup de graphiques sur les États-Unis parce que c'est vraiment le seul endroit où on a des données aussi fiables, aussi détaillées et surtout sur des périodes aussi longues. Et donc, si vous regardez aux États-Unis le niveau de confiance des consommateurs, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout sur des niveaux jamais vus. On est légèrement aujourd'hui au-dessus de la moyenne des 60 dernières années. Donc, on n'est pas sur un niveau de stress incroyable qui justifierait une volonté de liquidité incroyablement supérieure à ce qu'on a connu depuis 100 ans. Et donc, on a bien le sentiment que on a un montant de liquidité qui a été imposé aux agents du secteur privé, qui est excessif. Alors, il y a une petite partie hein, qui est liée aux entreprises qui ont tiré sur leur ligne de crédit qui va être donnée, mais le gros, c'est des liquidités qui sont vraiment présentes sur les comptes et qui correspondent à un transfert de richesse. Et si effectivement les agents privés considèrent que ce niveau de liquidité est bien excessif par rapport à leurs besoins, typiquement les ménages, c'est en général des liquidités qui permettent de couvrir un mois de dépenses, on a la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment va être géré cet excès de liquidité. Alors une première chose, c'est de comprendre que c'est pas si simple en fait au niveau agrégé de faire baisser le niveau de liquidité. Le réflexe, ça pourrait être de se dire il suffit de le dépenser. Les ménages qui ont reçu des chèques, ils ont qu'à le dépenser, et puis une fois qu'ils l'auront dépensé, ils n'auront plus l'argent sur leur compte. Sauf que forcément, un achat c'est un transfert de liquidité au vendeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition de la liquidité, il y a juste le transfert de la liquidité d'un compte vers un autre compte, en échange d'un service ou d'un produit qui lui est transféré dans l'autre sens. Donc, d'un point de vue agrégé, macroéconomique, il n'y a pas d'amélioration, de diminution de la liquidité, simplement en essayant de dépenser. Après, on pourrait penser qu'on peut acheter un actif comme une action ou une obligation, épargner, mais en fait, ce type d'épargne, là encore, ce n'est que l'achat d'un actif existant. Donc, s'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Et donc, une nouvelle fois, ça ne fait que transférer la liquidité du compte de celui qui achète vers le compte de celui qui vend. Il n'y a pas de diminution agrégée de liquidité. Une troisième piste, donc là, c'est les pistes qu'on écarte. Hein, sur la page suivante, on regardera les pistes qui fonctionnent. Mais une troisième piste qu'on a tendance à écarter parce qu'elle paraît quand même assez compliquée au niveau de l'ampleur nécessaire pour arriver à faire qu'elle fonctionne vraiment, ce serait celui de ce qui se passe un peu en théorie économique, c'est-à-dire que si vous avez trop de liquidités qui s'accumulent, eh ben c'est inflationniste et au bout d'un moment, l'inflation est tellement élevée qu'elle finit par faire que le niveau de liquidité redevient le bon niveau. C'est-à-dire typiquement, des ménages, si un ménage a besoin de 100 pour faire face à ses dépenses habituelles, si vous le forcez à avoir 120 de liquidité, si l'inflation monte suffisamment pour que les prix passent de 100 à 120, eh ben on va retrouver un niveau de 120 qui redeviendra acceptable. Il y aura une forme d'érosion via la hausse de prix. Mais là, on voit que ça paraît quand même compliqué. Les liquidités ont augmenté de façon quand même très élevé en pourcentage, vu la faible inflation qu'on a observée depuis 20 ans, même si on ne peut pas exclure, on reviendra dessus, une accélération, ça paraît difficile d'imaginer qu'on absorbe cette envolée des liquidités simplement par une érosion nominale. Et donc la page suivante, on liste donc les mécanismes qui permettent de vraiment diminuer les liquidités du secteur privé. Pour les diminuer, il faut faire sortir cette liquidité de la sphère qui nous intéresse, qui est le secteur privé. Donc ça peut être soit des transferts vers l'État, c'est ce qui se produit si on a une baisse importante du déficit, voire l'apparition d'un excédent. Ça peut venir soit d'une bonne conjoncture, soit d'un durcissement fiscal. Et dans ce cas, c'est un peu un retour à l'envoyeur, hein, puisque toutes ces liquidités, c'est des injections, on l'a dit au début, de l'État. Donc, quelque part, ça voudrait dire que ça lui revient, ce qui est possible dans un deuxième temps, mais peu probable à très court terme. Ça peut être un transfert vers l'extérieur via le déficit commercial. C'est souvent ce qui se produit quand un pays tout seul a une politique très agressive de déficit budgétaire et de planche à billets. Le gros en fait de la liquidité créée va servir à acheter des biens importés. La devise va s'ajuster fortement à la baisse, ce qui fait que tous les produits importés de façon un peu forcée vont valoir plus cher. Et au final, le gros des liquidités va disparaître vers l'extérieur. Et puis la troisième solution pour arriver à diminuer le niveau de liquidité, c'est de transférer la liquidité vers les banques. Quelque part, ça revient à la détruire. Et ça, c'est possible soit en remboursant des prêts, soit en empruntant moins que ce qu'on aurait emprunté en temps normal. Donc ça revient quelque part à transformer cette liquidité de court terme instantanée en une épargne financière de long terme. C'est une possibilité. En même temps, c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que réellement il y a une logique à voir les ménages se constituer une épargne financière massive, puisque durable, alors même qu'on a vu que leur niveau de confiance ne s'est pas écroulé. Est-ce qu'on peut avoir un comportement aussi précautionneux des ménages dans un environnement qui, certes, a été stressant, mais ne l'est pas particulièrement quand on se replace sur un historique de long terme? Et en fait, ça m'amène à devoir parler un peu de l'équilibre qu'on a sur l'épargne financière nette des agents économiques, parce que c'est vrai que c'est un point qui est important par rapport au sujet qu'on a. Le sujet qu'on a, c'est qu'on a tout d'un coup des États qui, de façon assez violente, dégradent leur épargne financière nette, en se mettant à emprunter de façon extrêmement massive. Or, il s'avère que l'épargne financière nette des agents économiques, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que pour que quelqu'un emprunte, il faut que quelqu'un épargne. C'est mécanique. Ça se voit très bien sur le graphique page 14, toujours sur les États-Unis, où on voit en fait l'évolution de l'épargne financière nette des agents économiques, donc rapportée en points de PIB. Et la somme des trois courbes vaut toujours zéro. Et on voit que Le système normal, hein, c'est d'avoir le reste du monde qui est proche de zéro. Alors aux États-Unis, le reste du monde est positif parce qu'ils ont un déficit courant continu aux États-Unis, mais c'est assez exceptionnel, hein, d'avoir des positions comme ça. Et la position classique, autrement, c'est d'avoir un secteur privé excédentaire et un secteur public déficitaire. Et donc le côté déficitaire du secteur public a quand même un sens, hein. Faut pas l'oublier. C'est que comme c'est un jeu à somme nulle, si on veut que le secteur privé puisse épargner, en particulier que les ménages, puisque c'est eux les plus qui épargnent le plus, puissent épargner pour se constituer une épargne au fur et à mesure de leur vie pour leur retraite future, mécaniquement, bah, il faut bien que quelqu'un en face soit débiteur. Et c'est quelque part un peu un rôle du secteur public d'être débiteur. Dans une certaine mesure. Là, on est sur une question de mesure. Et donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les trois courbes sont à peu près, donc sont exactement, la somme est exactement égale à zéro. On sait que la courbe rouge va sortir du graphique par le bas. Ça, c'est écrit. On ne voit pas pourquoi la courbe bleu clair bougerait énormément, puisque je l'ai dit, hein, ces mesures sont généralisées au niveau mondial. Donc ça veut dire que la courbe bleu foncé, la courbe noire de l'épargne financière des agents économiques privés, normalement va sortir du graphique par le haut, et assez sensiblement. Et c'est vrai que on peut se poser la question de pourquoi les agents du secteur privé auraient-ils ce souhait à ce point de se créer une épargne dans des proportions qu'on n'a jamais vues, hein, au cours des 70 dernières années. Et sur le graphique, page suivante, on passe au ménage, où on voit que on a une forme de stabilité autour de 4 à 6 % hein, sur leur niveau d'épargne financière nette historiquement, qu'on avait eu une baisse importante avec la bulle immobilière qui avait commencé à la fin des années 90, qui s'était amplifiée au début des années 2000. Et on voit la correction très forte qu'on a eue au moment de la crise de 2008-2009. Et c'est pour ça qu'en 2008-2009, on a eu en fait des plans de relance. C'est-à-dire que souvent, les plans de relance des États jouent justement ce rôle contracyclique de compenser le retrait du secteur privé au moment de la récession. Ce qu'on a assez classiquement, hein, c'est qu'au moment de, pendant l'expansion, on a une partie du secteur privé qui souvent fait des excès de leverage ou d'investissement. Ça peut être les entreprises en 99-2000 ou les ménages plutôt sur 2003, 2004, 2005, 2006. Et au moment où cet acteur privé tout d'un coup se retire extrêmement violemment, si personne se met en face, bah là il y a un effet dépressif sur l'économie, et donc c'est à ce moment-là que normalement on a le secteur public qui voit son déficit se creuser fortement pour compenser et tamponner en fait cette dégradation du secteur privé. Et c'est vraiment, donc on voit, hein, sur 2008-2009, ça avait été très violent du côté des ménages et c'était absolument nécessaire que l'État se mette en face. Quand on voit le niveau aujourd'hui de l'épargne nette financière des ménages aux États-Unis, on voit pas tellement pourquoi il y aurait un mouvement de correction très brutal qui se mettrait en place. On est déjà sur le niveau moyen historique. Et c'est vrai que ça soulève un peu la question de savoir, donc là ça me fait ma transition avec le slide 16, qu'est-ce que les injections de l'État aujourd'hui viennent compenser? Quel est l'excès du secteur privé qui doit être corrigé, qui est en train d'être corrigé, et qui amènerait un deleveraging du secteur privé, obligeant l'État à se leverager en empruntant. Pardon pour ces termes un peu anglo-saxons, mais j'ai pas de bon équivalent pour deleveraging. Donc c'est une vraie question. Surtout que non seulement on n'identifie pas d'excès d'agents privés, ni entreprises ni ménages, et en plus on n'a même pas l'effet richesse négatif qu'on a souvent en récession via la chute des prix des actifs. C'est-à-dire que ce qui se rajoute souvent pendant la récession, c'est que non seulement bah, un acteur avait été un peu trop agressif, il est obligé de revenir à un niveau d'endettement plus réaliste, mais en plus, au même moment, les marchés actions s'écroulent, souvent, en tout cas en 2008-2009, le marché immobilier s'écroule, et donc tout d'un coup, il a une valeur d'épargne nette qui s'écroule, et il ressent d'autant plus le besoin de réépargner davantage. Donc c'est ce qui fait un jeu de balancier extrêmement violent entre l'expansion où il a peut-être pas assez épargné et tout d'un coup un besoin de surépargner pour compenser la disparition de son épargne via la chute des actifs. Or aujourd'hui on n'a pas de chute des actifs hein, au niveau agrégé mondial. Le marché actions est en toute petite baisse hein, par rapport au début de l'année. Le marché immobilier partout dans le monde se tient toujours très bien. Donc il n'y a pas de raison a priori non plus de voir les agents privés se retirer parce qu'ils seraient contraints d'épargner plus pour compenser des pertes financières. Et donc c'est vrai que ça soulève une question, c'est de ces politiques extraordinairement expansionnistes des États qui sont mises en place aujourd'hui. Dès lors qu'elles ne semblent pas venir compenser un retrait du secteur privé, on peut imaginer que leur effet en traînant sur l'économie va être d'autant plus grand et peut-être plus grand que ce qu'on a jamais vu. Alors ça suppose bien sûr hein, pour que ça se manifeste que à un moment on ait une accalmie véritable sur l'épidémie et que il y ait plus de freins mécaniques comme des confinements, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Avec le risque à un moment de pousser l'économie trop fortement et puis de provoquer une surchauffe qui pourrait conduire in fine à une accélération de l'inflation. Alors on ne parle pas d'accélération de l'inflation dans les 3 ou 6 mois, on n'est pas sur ce type d'horizon, mais c'est vrai que dans les scénarios les plus positifs au niveau de l'épidémie, si les plans de relance qu'on a déjà eu et ceux qu'on suppose arriver prochainement ont bien lieu, on ne peut pas exclure que sur la fin 2021, on commence à avoir des signes de surchauffe. En tout cas, c'est une hypothèse qui est crédible. Je ne sais pas si c'est un scénario central, mais en tout cas, il y a une probabilité qui est non négligeable. Ce serait un scénario problématique clairement pour les banques centrales, parce que c'est elle qui pousse quand même beaucoup les États à dépenser aujourd'hui. Donc si à un moment on se dit qu'il y en a eu trop de faits et que ça fait accélérer l'inflation et que c'est les banques centrales qui ont provoqué cette accélération, ça sera assez paradoxal et ça sera problématique pour elles. Par contre, c'est vrai que c'est un des scénarios les plus positifs pour les États pour résoudre leurs problèmes de dette, puisque là, si l'inflation accélère, ça permettra de gommer en partie la dette, en tout cas son rapport, le rapport dette sur PIB sera mécaniquement beaucoup plus bas. Une question qu'on nous pose aussi, c'est est-ce que annuler la dette d'État détenue par les banques centrales n'est pas la solution la plus simple? Alors en fait, oui en théorie, mais dans la pratique, pour nous, ça change absolument rien au fond. Donc il y a deux solutions. Donc première étape, on annule la dette détenue par la banque centrale. Mécaniquement, bah, la banque centrale fait une perte. Faut se rappeler qu'elle a un passif hein, en face de cet actif, hein, on l'a montré tout à l'heure. Donc elle se retrouve avec un passif sans actif. Donc première solution, l'État décide de recapitaliser pour boucher le trou. Mais dans ce cas, il ne fait que il doit réemprunter le montant qu'on vient de lui annuler en dette, et donc on n'a pas du tout fait disparaître de dette. Hein. Ça a été très transitoire, la dette réapparaît aussitôt pour recapitaliser la banque centrale. Deuxième solution qui a été imaginée, c'est de dire que bah, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser la banque centrale avec des fonds propres négatifs? Alors premier constat qu'on n'a pas mis là, mais on n'est pas sûr que ça change beaucoup la situation, hein, puisque la banque centrale, dans la plupart des pays, la banque centrale et l'État, c'est la sphère publique. Dire qu'on n'a plus de dette de l'État et qu'on l'a remplacée par des fonds propres négatifs de la banque centrale, je suis pas sûr que ça traduise une amélioration de la situation financière de l'ensemble. Et puis surtout, ça pose un gros problème de crédibilité à la banque centrale, avec tous les effets négatifs que ça peut entraîner derrière sur la devise ou même sur les taux d'intérêt long terme. Donc par rapport à cette idée d'annuler purement et simplement la dette, ça paraît compliqué. La question qui est peut-être posée hein, de façon implicite par les personnes qui posent cette question, c'est peut-être le fait simplement de dire mais est-ce que les déficits publics, est-ce que c'est vraiment un sujet? Est-ce qu'on ne peut pas en faire autant qu'on veut? On les fait financer sans fin par les banques centrales, pas besoin d'annuler, on fait simplement grossir les bilans sans fin. Est-ce que c'est pas la solution? Alors, on aime bien déjà en préambule rappeler que quand on dit ça, on a l'impression que tout d'un coup, on va créer de la richesse, on peut envoyer des chèques, faire que tout le monde soit plus riche. Le déficit public ne crée pas de richesse réelle, hein. Ça, il n'y a pas de capacité à en créer, et ça ne crée pas non plus de capacité de production. Et donc à partir de là, la richesse apparente qui serait générée, elle n'est qu'apparente. On a pris un cas extrêmement caricatural, mais qui permet de bien imager ce qu'on veut dire, c'est que si demain tous les États dans le monde viraient 10 millions d'euros sur tous les comptes bancaires dans le monde, on sent bien intuitivement que tout le monde ne sera pas très très riche. On n'aura pas une augmentation du nombre de biens immobiliers, de biens de consommation. On ne pourra pas pour chacun lui offrir, chacun ne pourra pas avoir un appartement dans le centre de Paris ou dans le centre de New York. Tout le monde ne pourra pas acquérir une Ferrari, tout simplement parce qu'on ne pourra pas produire des Ferrari pour l'ensemble des personnes ayant la capacité d'achat des Ferrari. Et donc on voit bien que ce serait mécaniquement les prix qui s'ajusteraient, l'inflation s'envolerait et on rééquilibrerait l'offre et la demande en faisant en sorte que ces 10 millions d'euros ne valent plus grand-chose parce que de toute façon, on n'a pas de quoi fournir des biens pour l'équivalent de 10 millions d'euros d'aujourd'hui. Il faudrait donc que ces 10 millions d'euros se dévaluent jusqu'à ne plus permettre d'acheter grand-chose. Et donc, ce serait quand même totalement illusoire. Si un seul pays le faisait, on aurait un ajustement qui serait encore plus violent puisque ça se passerait par une baisse très très rapide de la devise. Donc on voit bien que si on caricature la chose, on voit bien qu'il n'y a pas de solution magique à faire du déficit qui serait financé par une banque centrale. La création apparente de richesse n'en est pas une. Ça c'est si on caricature. Une question qu'on nous pose c'est oui d'accord, mais si on faisait non pas quelque chose de caricatural, mais qu'on faisait simplement un peu, est-ce que finalement on n'arriverait pas à créer un peu de richesse, en tout cas à pouvoir en distribuer aux agents économiques, et sans vraiment créer un risque d'inflation qui diluerait tout ça, puisque l'inflation est quand même très basse depuis un bon moment, il n'y a pas du tout de pression inflationniste présente, donc voilà, on pourrait au moins commencer à le faire, et quitte à s'arrêter si à un moment on voyait que ça créait un problème, mais ce serait quand même dommage de se priver de cette possibilité tant qu'il n'y a pas de problème qui apparaît. C'est une idée, nous on pense qu'il y a quand même trois limites, il y a trois risques majeurs. Donc par rapport à cette idée qui est faisons du déficit tant qu'il n'y a pas de problème et puis on s'arrêtera le jour J, c'est que c'est pas si simple de s'arrêter le jour J. Une fois que l'inflation accélérera, est-ce que vraiment on sera capable tout d'un coup de revenir de déficit très élevé à pas de déficit? On peut être assez sceptique, ça voudrait dire soit augmenter massivement les impôts d'un coup, soit baisser rapidement les dépenses. Dans les deux cas, on sait que c'est difficile de le faire un peu déjà, donc le faire massivement, on peut être un peu sceptique. Deuxième problème, c'est que c'est pas sûr, même si on arrive tout d'un coup à refaire baisser les déficits, est-ce que pour autant l'inflation qu'aura commencé à accélérer, elle va tout d'un coup décélérer? On n'en est pas sûr. L'inflation, une fois comme on dit qu'elle est sortie de sa boîte, c'est pas si simple de la faire rentrer dedans. Et donc il y a un risque que l'inertie de l'inflation soit enclenchée et qu'à partir de là, ça soit trop tard. Et puis le troisième problème surtout, c'est que à un moment, si l'inflation accélère, on va avoir une banque centrale qui va être contrainte pour la freiner de remonter ses taux d'intérêt. Et là, tout d'un coup, la fragilité du système va apparaître puisque le coût de la dette va exploser. Alors on peut nous dire, oui, mais la dette de l'État sera détenue essentiellement par la banque centrale, donc c'est un jeu à somme nulle, les intérêts plus élevés payés par l'un seront compensés par des intérêts reçus par l'autre. Sauf que dans ce cas, on oublie qu'en face de son actif, la banque centrale, elle a un passif, c'est les réserves des banques commerciales, et qu'elle est aussi censée rémunérer ses réserves au taux d'intérêt. Et donc, ce qu'elle gagne chez l'État, elle le repère directement chez les banques commerciales. Et donc, il y a bien la hausse des taux d'intérêt serait bien in fine payée par l'État. Et donc là, on aurait un système qui pourrait devenir totalement instable et extrêmement fragile. Donc voilà, cette stratégie de allons le plus loin possible pour profiter du système nous paraît quand même assez dangereux. Après, donc si on se dit qu'on peut pas laisser les dettes publiques s'envoler à l'infini, en tout cas il faudra être capable de les résorber sans doute à un moment, quelles sont les solutions? En théorie, il y en a trois, c'est simple, il y a soit un durcissement de la fiscalité, donc soit on monte les impôts, soit on coupe dans les dépenses, on va dire, soit on a une amélioration spontanée du déficit suite à une conjoncture très favorable. Ce qu'on peut pas écarter, on l'a dit, les mesures de relance sont tellement massives, à un moment où on a le sentiment que le secteur privé n'est pas si fragile que ça, qu'on peut avoir un effet d'entraînement sur l'économie plus fort qu'attendu, mais il faudra sans doute quelques temps pour que ça se voit. Et puis la dernière façon, c'est de diluer ses dettes, hein, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Si le PIB en nominal croît très vite, donc de la croissance en volume sans doute, mais surtout de l'inflation, hein, si on veut atteindre des rythmes assez élevés. Cette accélération de l'inflation étant elle-même liée à la politique fiscale et monétaire très accommodante, on pourrait avoir un moment dont on aura un effet mécanique, hein, sur le ratio dette sur PIB qui aidera. La réalité, c'est que probablement, si on a une vraie diminution des dettes publiques, ça sera une combinaison des trois. C'est difficile d'imaginer qu'un seul de ces facteurs puisse à lui seul vraiment faire rediminuer la dette publique. Concrètement, puisque c'est une question qu'on nous pose beaucoup, est-ce qu'on pense qu'il y a un vrai risque de durcissement brutal de la fiscalité à court terme? Est-ce que les gouvernements peuvent être acculés à devoir, à marche forcée, diminuer leurs dettes et donc durcir, monter les impôts massivement ou couper massivement dans les dépenses? On n'a pas ce sentiment, parce qu'on ne voit pas l'urgence qui les presserait. D'abord, le premier point qu'on note, c'est contrairement à 2008, 2009, 2011, 2012, donc il y a des vraies différences, c'est pour ça que les parallèles, il faut faire attention. Il y avait à l'époque des pays qui étaient jugés comme fautifs. Et il y avait une volonté de les voir prendre des mesures extrêmement dures pour rentrer dans le droit chemin, si je peux dire. Aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que les déficits, c'est pas parce qu'un pays a laissé déraper ses finances sur 10 ans en faisant pas attention. Il y a des déficits qui ont explosé sur des durées extrêmement courtes à cause d'une épidémie mondiale qui n'était dont personne n'a la responsabilité a priori. Et donc, il n'y a pas cette volonté de forcer certains comme une punition à corriger à marche forcée leur déficit. Après, on a deux scénarios possibles par rapport à l'inflation. Premier scénario, c'est que malgré ces politiques extrêmement agressives, monétaires et fiscales, l'inflation reste contenue. Dans ce cas, le plus probable, c'est que les banques centrales vont continuer à soutenir les États par des quantitative easing, puisque ça posera pas de problème, et donc il n'y aura pas de pression sur les États pour diminuer leurs dettes. Deuxième scénario, scénario inverse, au contraire, si on a une inflation qui accélère fortement, à un moment, c'est sûr que la banque centrale sera obligée de réagir. On pense qu'elle va, elle va tarder, elle va quand même attendre d'être vraiment sûre que l'inflation soit installée sur la durée, sur des rythmes élevés, donc on va dire au moins 2 ans à plus de 3%. Alors là, c'est vrai qu'il y a la hausse des taux va avoir un impact négatif pour les États. Par contre, c'est vrai que l'amélioration des recettes qui sera inévitable, hein, si on a plus de croissance, plus d'inflation, et la dilution du ratio de dette sur PIB va se faire sentir beaucoup plus rapidement. Et donc, dans un premier temps, on aura plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on va avoir un déficit budgétaire qui baisse, un ratio de dette sur PIB qui est dilué, et donc il n'y aura pas une urgence. Je ne dis pas que les États vont pas devoir prendre quelques mesures, mais je ne pense pas qu'on sera sur des mesures urgentes qui obligeront à des annonces extrêmement brutales. Et pour nous, en fait, le vrai risque pour les agents privés, c'est pas tant qu'on leur reprenne l'argent à court terme par un durcissement fiscal brutal, c'est plutôt que ces agents privés voient leurs placements érodés par l'inflation. Et c'est comme ça, quelque part, que l'État va récupérer. C'est que si l'inflation, déjà avec une inflation à 1,5 vu les niveaux d'emprunt, il y a une forme de transfert des créditeurs vers les emprunteurs. Et si l'inflation accélère, ça sera encore plus rapide. Et donc, je pense que c'est vraiment ça le principal sujet d'inquiétude des agents privés, c'est de ne pas voir leur épargne, leur placement érodé par l'inflation, au profit, bien sûr, des États qui, eux, sont emprunteurs. Deux slides rapides, juste pour parler des pays périphériques, puisque on nous évoque, hein, les parallèles avec 2011-2012. C'est clair qu'on a une forte détérioration, hein, des déficits publics, une forte détérioration des dettes qui va avec. C'est particulièrement vrai, hein, sur la Grèce et l'Italie. Pour la première, si on se met en 2021, on frôlerait les 200% de pour le rapport dette sur PIB. Pour l'Italie, on franchirait les 150%. Donc c'est clair qu'il y a une détérioration qui est sans doute durable et qui posera des problèmes sur la durée à un certain nombre de pays périphériques, en particulier l'Italie et la Grèce. À court terme, on ne pense pas qu'il va y avoir une cristallisation autour de ces sujets. D'abord parce qu'il y a la création probable d'un fonds européen important, donc il va falloir vérifier, mais la probabilité est assez élevée. C'est la première fois qu'il y aura vraiment une forme de solidarité au niveau européen entre ceux qui reçoivent et ceux qui empruntent. On a le fait que la Banque Centrale Européenne dispose aujourd'hui d'outils pour intervenir qu'elle n'avait pas avant la crise de 2010-2011, et il y a une volonté de les utiliser qui est extrêmement forte, qui est indiscutable, donc c'est un facteur qui rassure aussi. Et puis pour rappel, on n'a pas de volonté de punir, hein. On n'est pas dans la situation de 2011-2012 où il y avait des mauvais élèves qui devaient payer leur comportement un peu trop cigale. Il n'y a pas du tout ça aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'on contraindra certains États à des mesures extrêmement dures qui quelquefois peuvent finir par être contre-productives. Voilà, donc comme je l'avais annoncé hein, au début, on n'a pas de réponse catégorique hein, sur un certain nombre de questions, mais on a quand même apporté un certain nombre d'éléments. D'une part, le fait que la combinaison déficit public-soutien monétaire, c'est pas une nouvelle solution magique. Par contre, c'est vrai que les limites à l'utilisation de cette solution restent éloignées tant que l'inflation reste basse. Et donc, c'est vrai que rien ne va empêcher de continuer pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres et peut-être un peu plus encore l'application de cette politique. Si effectivement on a une accélération de l'inflation à un moment, là on aura quand même un vrai test d'indépendance des banques centrales. C'est vrai que ça sera un moment un peu compliqué, parce que les banques centrales seront capables de prendre des mesures extrêmement dures, puisque ça sera de remonter les taux. Est-ce qu'elles auront le courage de le faire à ce moment-là? Ça sera une vraie question. Les discours les plus récents hein, montrent que, en tout cas, elles seront tolérantes, c'est-à-dire qu'elles ne réagiront pas tout de suite, elles attendront un certain temps, mais au-delà de ce certain temps, il faudra quand même vérifier que les banques centrales sont aussi capables de protéger les investisseurs. Alors, les banques centrales sont indépendantes de l'État, je le rappelle juste, c'est que l'idée, c'est que comme l'État est structurellement emprunteur, alors que le secteur privé est structurellement prêteur, l'État est biaisé. Lui, il a toujours intérêt à voir l'inflation accélérer pour éroder sa dette. Et la Banque centrale est indépendante justement parce qu'elle a en partie comme rôle de limiter l'inflation pour protéger les épargnants. Donc il faudra voir si elle est vraiment capable de jouer totalement ce rôle dans ce moment qui sera un peu compliqué s'il se produit. On a une vraie question sur savoir si on n'a pas une sous-estimation de la vigueur possible de la reprise. Ça reste très très dépendant de l'évolution de la situation de l'épidémie, bien entendu. Mais si ça se passe plutôt bien sur l'épidémie, on l'a dit, hein, les montants injectés sont absolument colossaux. Il n'y a pas de raison que le secteur privé ait particulièrement envie de se retirer aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu d'excès au cours de l'expansion précédente. Et donc, on a peut-être une sous-estimation de l'effet amplificateur que peuvent avoir aujourd'hui ces politiques. Si effectivement c'est le cas, c'est vrai qu'à un moment, on peut avoir un changement d'anticipation qui peut être un peu brutal, des taux d'intérêt long terme qui, malgré le quantitative easing, s'orientent à la hausse, des anticipations d'inflation qui remontent. Donc là, c'est pas une prévision à 3 ou 6 mois. Hein. Je pense que l'inertie est telle que c'est plutôt quelque chose qui pourrait se produire à un moment en 2021, mais en tout cas pas en 2020. Et c'est vrai que si jamais ça se produit, ça pourrait fragiliser l'ensemble des marchés qui dont le rebond sur les classes d'actifs risqués tient quand même pour beaucoup à la baisse massive des taux long terme, en particulier aux États-Unis. Et par contre, je le disais, on n'a pas beaucoup de réponses catégoriques. Il y a qu'une chose dont on est à peu près sûr, c'est le dernier point. C'est comme on dit sur les marchés, il n'y a pas de free lunch, hein, il n'y a pas de repas gratuit pour tout le monde. S'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. S'il y a des solutions qui ont l'air magiques, c'est qu'il y a sans doute des perdants en face. Et les perdants, c'est clairement les investisseurs qui sont positionnés en obligations d'État et aussi quelque part, dans une moindre mesure peut-être, ceux qui sont positionnés en monétaire. Parce que s'il n'y a pas de déflation qui apparaît prochainement, et c'est pas du tout notre scénario, puisque nous on est plutôt sur une inflation stable ou une accélération de l'inflation, s'il n'y a pas de déflation, qu'on reste autour de 1% d'inflation, ça veut dire que le taux réel est à moins 1 aujourd'hui. Donc on investit à 10 ans, on prête à l'État à 10 ans pour perdre 1% par an en réel. Et si on a une accélération de l'inflation, bah là on peut perdre 2%, voire 3% par an. Sur 10 ans, ça peut devenir absolument massif. Donc voilà, la seule vraie certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que face à tous ces programmes atypiques qu'on a, il y a un perdant à peu près certain, c'est l'investisseur qui est positionné sur des actifs non indexés sur l'économie ou sur l'inflation, puisque ces actifs rapportent zéro, alors même que l'inflation est en territoire positif aujourd'hui et qu'on a plutôt une probabilité qu'elle accélère dans les prochains mois. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est vrai que c'était des sujets un peu complexes et qu'il y avait beaucoup de choses à couvrir. J'ai pas eu le temps d'aller regarder
questions. Il y en a une que j'ai rajouté un ou deux mots. Alors, ne pensez-vous pas que le système...
Je t'entends très mal, Jean-Jacques. Je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, je t'entends très mal.
Mal, là.
Un peu mieux.
Alors, ne pensez-vous pas que le système paraît être en état de mort et qu'il ne survit que grâce à une perfusion qui le soulage et l'endort. Le seul remède sain pour guérir serait de la croissance, et nous savons qu'en Europe, ce ne sera pas le cas. Cet acharnement thérapeutique ne va-t-il pas durer jusqu'à un éclatement du système ?
Alors là, moi, je suis moins négatif que la personne qui pose la question. Moi, je pense pas qu'on soit en état de mort hein, au niveau de l'Europe. Alors l'Europe n'a pas les taux de croissance aujourd'hui élevés qu'elle a eu dans les années 60, hein, ça c'est sûr. La population active croît très peu, la productivité et les gains de productivité sont modestes, donc c'est sûr que notre potentiel de croissance n'est pas extraordinaire. Mais j'ai pas une vision aussi dure sur l'état global de l'Europe. Je pense que là on est sur des mesures extrêmement massives juste pour passer à un moment compliqué, qui est un arrêt quand même de l'économie au niveau de la France. Hein. L'INSEE estimait qu'en avril on était plus qu'à 64% de production par rapport à la normale, donc on était en diminution d'un tiers, donc c'est extraordinairement violent. Il y a des injections assez massives qui ont lieu pour absorber ce moment compliqué, qui, si la situation s'améliore tout d'un coup, vont paraître être très élevées. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourra se dire, mais a-t-on besoin de tout cet argent maintenant que l'économie est repartie? Parce que cet argent ne va pas disparaître, hein, on a essayé de le souligner, c'est que ce qui est injecté, c'est injecté pour de bon. Et donc même si la situation revient à la normale, cet argent, sauf à le reprendre par des hausses d'impôts assez peu probables, très rapides, sera toujours là et va toujours pousser la conjoncture. Et donc je pense que la croissance peut tout à fait se repartir de façon durable en Europe. Par contre, c'est vrai que ça résout pas les problèmes de fond, c'est-à-dire qu'on sait qu'en Italie il y a un nombre de mesures de fonds qu'il faudrait sans doute prendre pour rendre le marché du travail peut-être plus efficace, etc. C'est vrai que on ne résout pas des problèmes un peu structuraux en injection de l'argent. Ça c'est une certitude. Mais au-delà de cet aspect négatif, j'ai pas une vision si négative sur la situation de la croissance en Europe.
Une deuxième question, la croissance de l'endettement extérieur public, singulièrement de la France, peut-il servir d'arme politique à la Chine dans la guerre commerciale ?
Je suis pas sûr, je crois pas que la Chine dont le pays hein, qui quelque part est dans la position la plus caricaturale qu'on puisse imaginer de ce point de vue-là, c'est les États-Unis, qui ont un endettement extérieur extrêmement important. Je le soulignais sur le premier graphique, dans un des premiers graphiques sur l'épargne financière nette des différents agents. Je disais que les États-Unis, le reste du monde était tout le temps en excédent par rapport aux États-Unis, ce qui était un peu une anomalie. Et la Chine en particulier est derrière. Et on voit que la Chine, en fait, n'a pas de vraie capacité à utiliser cet excédent comme une arme politique. En fait, c'est assez compliqué pour eux parce que s'ils menacent à un moment de vendre des obligations d'État, ils vont faire des pertes. Donc eux-mêmes vont faire des pertes sur leur portefeuille en faisant baisser le cours des obligations d'État, en faisant monter les taux, ils vont faire ralentir la croissance américaine et donc la consommation américaine, et donc ça va peser sur leurs exportations à eux. Donc ils se tirent quelque part une balle dans le pied. Hein, s'ils ont une position aussi avantageuse par rapport aux États-Unis, c'est bien que les États-Unis étaient un partenaire clé. Et puis après, s'ils menacent tout d'un coup, ce qui serait un peu la menace ultime, de dire bah finalement, plutôt qu'acheter des emprunts d'État, je vais plutôt racheter toutes vos entreprises cotées, très rapidement, on aurait des mesures pour limiter ce type de rachat. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'outils, même le fait de vendre le dollar pour acheter une autre devise, ça ferait juste baisser la devise qui, quelque part, poserait un problème à la Chine pour exporter aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est des armes dissuasives, mais qui n'existent pas vraiment, en fait. Elles sont au moins aussi nuisibles à celui qui les utiliserait qu'à celui qui les subirait. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus, personnellement.
Voilà, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions, je crois. Donc, merci pour votre présence et puis portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir.